Bonjour à chacun. La question de Jésus que je vous propose ce matin fait partie de ces textes de la Bible qui ne sont pas faciles à comprendre à la première lecture. Vous savez, ces textes qui demandent qu'on les relise, parce que quand on arrive au bout, on se dit « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» et parfois qui demandent qu'on les relise plusieurs fois. Ces textes qui nous obligent à bien réfléchir à ce que nous lisons. Ces textes qui nous invitent à être des lecteurs et des étudiants attentifs de la Bible. Notre texte se trouve, si la télécommande veut bien, voilà, notre texte se trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 11 et je vais lire les versets 16 à 19. Je lis dans la traduction de la Nouvelle Bible Second. Matthieu 11, versets 16 à 19. « À qui comparerai-je cette génération ? Voici à quoi elle est semblable. Des enfants assis sur les places publiques qui appellent les autres en disant « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, il ne mangeait ni ne buvait et l'on dit « Il a un démon ». Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et l'on dit, c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs des taxes, des pécheurs. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Notre question se trouve au verset 16. À qui comparerai-je cette génération ? Dit Jésus. Pourquoi Jésus pose-t-il cette question ? Quel est le sens de la réponse qu'il apporte à la suite du texte ? Qu'est-ce que cette parole pourrait bien avoir à nous dire aujourd'hui ? La première chose qu'il faut considérer, c'est l'image, la métaphore, l'image que Jésus utilise au verset 16 et au verset 17. C'est une image surprenante, et c'est notre deuxième point. Quelle est cette image ? Jésus compare les gens de sa génération à des enfants, des petits-enfants de son temps. Des petits-enfants qui se trouvent sur les places publiques et qui jouent sur ces places publiques. Et à quoi jouent-ils ? Ils jouent à une espèce de jeu de devinette, un jeu de rôle et de devinette. Et le jeu semble fonctionner de la manière suivante. Il y a deux groupes d'enfants. Un premier groupe qui joue une scène de la vie ordinaire, et puis un deuxième groupe qui écoute et qui doit deviner de quoi il s'agit pour pouvoir ensuite entrer dans le jeu en jouant la suite qui s'impose. Et c'est ainsi que... Alors je pense que pour Noël, vous allez pouvoir offrir à l'Église une autre télécommande parce que...
C'est quoi, c'est les piles ?
Ah, ben oui, je comprends que ça ne pouvait pas fonctionner. Merci. C'est donc ainsi que le premier groupe, dit Jésus au verset 17, joue de la flûte. Certainement qu'il mime une cérémonie de mariage. Et le deuxième groupe doit deviner. Et s'il avait deviné ce que mime le premier groupe, alors il aurait dû danser. Mais Jésus dit, vous n'avez pas dansé. Puis Jésus propose un deuxième exemple, toujours au verset 17, où le premier groupe d'enfants chante cette fois-ci des complaintes. Sans doute mime-t-il un cortège funèbre. Le deuxième groupe, s'il avait deviné de quoi il s'agit, aurait dû se lamenter. Mais, dit Jésus, vous ne vous êtes pas lamenté. Voilà donc l'image que Jésus utilise dans notre texte. Une image tirée de la vie quotidienne, une image tirée des observations de Jésus, un jeu de petits enfants, sans doute très populaire à l'époque, peut-être un peu comme la marelle l'a été à une certaine époque dans les cours de récréation. Mais voilà, le jeu de ces enfants ne se passe pas comme prévu. Le deuxième groupe d'enfants semble d'humeur maussade et boudeuse. Ils refusent de répondre aux invites de leurs camarades du premier groupe. Ils refusent de prendre part au jeu. Et c'est ainsi que tout naturellement, le premier groupe fait des reproches au second. Vous n'avez pas dansé. Vous ne vous êtes pas lamenté. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Où Jésus veut-il en venir? Pour essayer de parvenir à une explication, c'est notre troisième point, il faut tout d'abord déterminer qui est qui dans cette métaphore utilisée par Jésus. C'est-à-dire qui sont ces enfants? Qui sont les enfants du premier groupe? Qui représentent-ils? Et qui sont les enfants de ce deuxième groupe? Qui représentent-ils? Commençons par les enfants du premier groupe, c'est-à-dire ceux qui sont assis sur les places publiques et qui appellent les autres. Qui sont-ils? Il y a deux camps. Il y a certains commentateurs ici qui voient Jean-Baptiste et Jésus qui s'adressent à leurs contemporains en les invitant, l'un Jean-Baptiste, à prendre le deuil et l'autre Jésus à se réjouir. Ça, c'est une compréhension possible. Et puis l'autre compréhension par d'autres commentateurs, et je m'associe plutôt à cette deuxième lecture, voit dans ce premier groupe, ces enfants assis sur les places publiques, une image des contemporains de Jésus, des contemporains de Jean-Baptiste et de Jésus. J'ouvre une toute petite parenthèse pour dire qu'il est certainement fort probable que ce soit derrière cette génération les autorités religieuses de l'époque qui sont en premier visées par Jésus. Ça se comprend assez facilement parce qu'elles sont quand même grandement responsables de l'attitude, de l'humeur, de la réceptivité du peuple aux enseignements et aux œuvres de Jean-Baptiste et de Jésus. Je referme cette petite parenthèse. Si certains associent les enfants du premier groupe à Jean-Baptiste et Jésus, d'autres donc, dont je fais partie, y voient plutôt les contemporains de Jésus, représentés donc par les autorités religieuses. Cette génération dont parle Jésus, cette génération qui reproche à l'un et à l'autre, à Jean-Baptiste et à Jésus, de ne pas avoir fait comme ils attendaient, de ne pas avoir accepté leur vision des choses. Cette génération qui se comporte comme des enfants mécontents face au refus de leurs camarades de faire ce qui leur est demandé. Il me semble que cette deuxième compréhension de l'identité des enfants du premier groupe est la plus cohérente avec le reste des évangiles et la plus cohérente avec ce que Jésus va dire ensuite au verset 18 et 19. Alors si cette lecture est la bonne, voilà ce que Jésus est en train de dire ici. Il est en train de dire que ce qui caractérise sa génération, cette génération, ses contemporains de Jean-Baptiste et de Jésus, ce qui les caractérise, c'est leur rejet de Jean-Baptiste et de Jésus. C'est le rejet de leur message. C'est le rejet de leurs œuvres. En effet, ils ne se sont ni lamentés suite à l'enseignement de Jean-Baptiste qui les appelait à la repentance. Ils ne se sont pas réjouis suite à l'enseignement de Jésus qui les invitait à entrer avec joie dans le royaume de Dieu. Pour ce qui est du rejet de Jean, dit Jésus au verset 18, il ne mangeait pas, il ne buvait pas, et on l'a accusé d'avoir un démon, d'être fou, si vous voulez. Pour ce qui est du rejet de Jésus, appelé ici le Fils de l'homme, lui, à l'inverse de Jésus, il mangeait, il buvait du vin, et on l'a accusé de ne penser qu'à faire bonne chère, d'être un glouton, d'être un ami des gens de mauvaise vie. Oui, Jean-Baptiste et Jésus ont été largement rejetés par leurs contemporains, et cela même si leur mode de vie était différent, leur mission était différente, leurs enseignements étaient différents. Et pourtant, malgré ces différences, ils venaient bien de la part de Dieu, ils parlaient de la part de Dieu, mais ils ont été rejetés tous les deux. Aucune méthode, aucun discours n'a véritablement trouvé grâce aux yeux de leurs contemporains. Alors bien sûr, nous parlons ici d'une manière générale. Il y a eu des cas particuliers. Il y a eu des personnes qui ont suivi Jean. Il y a eu des personnes qui ont suivi Jésus. Mais en réalité, c'était des exceptions. C'était par rapport à la population du pays, une proportion infime. Jésus est donc ici en train de constater le rejet de Jean-Baptiste et de lui-même par ses contemporains. Est-ce que c'est la seule chose qu'il dit ici? En fait, non. À la fin de ce passage, il ajoute ceci: « Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les œuvres de Jean-Baptiste et de Jésus les justifient aux yeux de leurs contemporains. Elles étaient insensées à leurs yeux et elles ne relevaient pas de la sagesse de Dieu. Et pourtant, c'est bien par la sagesse de Dieu qu'ils ont agi tous les deux. Et leurs œuvres le montrent et le démontrent. Elles montrent et elles démontrent quoi? Qu'ils sont de Dieu. Qu'ils parlent de la part de Dieu. Que leur message est véridique. Que leur voix est bien celle de Dieu. Que leurs œuvres viennent de Dieu. Et qu'ils agissent par la sagesse de Dieu. En d'autres mots, on pourrait dire ici, c'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artiste. Et les œuvres de Jean-Baptiste et de Jésus montrent la sagesse de Dieu. Oui, la sagesse a bel et bien été justifiée par ses œuvres, par les œuvres de Jean-Baptiste et de Jésus. Dans notre passage, Jésus donc ne se contente pas de poser le constat de son rejet et de celui de Jean-Baptiste par leurs contemporains, mais il affirme aussi que leurs agissements et leurs enseignements sont sages. Ils sont de Dieu. Ce qui sous-entend que ceux de leurs détracteurs ne le sont pas. Et c'est pourquoi les paroles de Jésus ici sont aussi une condamnation de cette génération, et en particulier des responsables religieux de l'époque, qui montrent leur folie spirituelle en rejetant Jean-Baptiste et Jésus qui viennent et qui parlent de la part de Dieu. Non, la sagesse ne se trouve pas dans les œuvres de ses contemporains, mais bel et bien dans celles de Jean-Baptiste et de Jésus qui les justifie. J'aimerais terminer maintenant, pour terminer, j'aimerais chercher à appliquer ce texte et cette compréhension que je vous ai présentée, c'est notre conclusion et c'est donc notre quatrième et dernier point. Et la question que j'aimerais poser ici est la suivante. Pourquoi ce rejet de Jean-Baptiste et de Jésus par leurs contemporains? Que pouvons-nous en dire à partir de ce passage? Il me semble que la réponse se trouve essentiellement du côté des attentes. Des attentes qui ne cadrent pas avec ce qui se passe, avec le réel. À l'évidence, ni Jean-Baptiste, ni Jésus, ni tout ce qu'ils ont dit et fait ne cadrait avec les attentes du peuple, avec les attentes en particulier messianiques que le peuple avait. Ils attendaient de Jean et de Jésus ce que ni l'un ni l'autre ne leur ont donné. Pour reprendre les paroles de notre texte, ils ont joué de la flûte, mais Jean n'a pas dansé. Ils ont chanté des complaintes, mais Jésus ne s'est pas lamenté. Soulignons dans cette même ligne que même Jean-Baptiste a douté. Même Jean-Baptiste ne savait plus quoi penser à un moment donné. Il ne savait plus quoi penser au sujet de Jésus et au sujet de ce que Jésus faisait. Pourquoi ? Parce que ce que Jésus faisait ne cadrait pas avec sa compréhension du royaume de Dieu et son attente messianique. Et c'est ainsi qu'au début de ce chapitre, dans les versets 2 et 3, nous lisons « Or Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Il envoya ses disciples lui demander « Est-ce toi celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jean est perdu. Est-ce que c'est Jésus ou pas qui est véritablement le Messie ? Pourquoi ce rejet de Jean-Baptiste et de Jésus ? Ce que je comprends en creux ici dans notre texte pour répondre à cette question, c'est donc qu'il y a rejet de Jean-Baptiste et de Jésus parce qu'ils n'ont pas accepté de rentrer dans les attentes que le peuple avait à leur égard. Ils n'ont pas accepté d'abandonner leur vision des choses pour adopter, pour entrer dans celle du peuple. Alors cela m'amène à dire un mot plus général sur la manière dont nous percevons Jésus, dont nous recevons Jésus, et la manière dont Jésus, Dieu aussi, est perçu par les hommes avec un grand H, et donc aussi par nous et par nos contemporains. Et dans le prolongement de ce texte, je constate que très souvent, les hommes, les femmes, les êtres humains, nos contemporains, sont prêts à accepter Jésus pour autant qu'il s'inscrit dans leurs attentes, dans leur schéma, dans leur vision des choses. Mais la question que pose ce constat est la suivante. Est-ce que c'est à Jésus ou bien à nous de faire les ajustements nécessaires? Qu'est-ce qui doit changer? Notre vision des choses ou celle de Jésus ou celle de Dieu? Je constate malheureusement trop souvent que l'homme, toujours avec un grand H, est prêt à accepter Jésus uniquement dans la mesure où il s'insère dans l'existant, dans l'existant sans le bousculer, sans faire de vagues, sans l'empêcher de faire ce qu'il veut continuer à faire, sans l'empêcher de faire ce qu'il faisait déjà. C'est ainsi qu'on veut bien d'un Jésus qui nous aime, d'un Jésus qui nous aide, d'un Jésus qui nous écoute, d'un Jésus qui nous guérit, d'un Jésus qui répond à nos prières. On veut bien de ce Jésus-là. Par contre, on ne veut pas d'un Jésus avec des exigences. On ne veut pas d'un Jésus qui met le doigt sur notre péché. On ne veut pas d'un Jésus qui parle de jugement, qui trouble notre conscience, qui nous appelle à la repentance, à la conversion, au changement de vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que très souvent, on veut bien de Jésus ou de Dieu tant qu'on n'a rien à changer dans sa propre vie, tant qu'on peut continuer à vivre sa vie à sa guise, tant qu'on ne vient pas nous embêter avec ce truc d'une autre génération qu'on appelle le péché, tant qu'on l'invite, ce Jésus, à chanter des complaintes et qu'il se lamente, tant que Jésus ne nous empêche pas de tourner en rond, alors on en veut bien. En réalité, les hommes veulent d'un Dieu à leur image, un Dieu qui rentre dans leur schéma, un Dieu sans exigence, un Dieu qui se soumet à leur volonté, un Dieu qui va exaucer favorablement, indépendamment de sa volonté, toutes mes prières et toutes mes demandes. Mais la réalité est tout autre. Dieu n'est pas une marionnette au service des hommes. Il est le créateur des hommes et il a le droit d'exiger d'eux ce que bon lui semble. Non, ce n'est pas à Dieu de soumettre sa volonté à la nôtre, mais c'est à nous de nous soumettre à lui. Non, ce n'est pas à Dieu de changer ses plans pour intégrer les nôtres, mais c'est à nous de l'intégrer dans nos plans. Non, ce n'est pas à Dieu de plier le genou devant nous, mais à nous de reconnaître sa souveraineté. Et tout ceci m'amène à poser une autre question, une question importante pour chacun de nous ce matin. Quelles sont vraiment mes attentes de Dieu ou de Jésus ? Quelles sont les attentes de Dieu ou de Jésus avec lesquelles je me suis approché de lui ? Peut-être avec lesquelles je suis venu ce matin, ici, au culte. Est-ce qu'elle laisse à Dieu ou à Jésus la place qui leur revient? Ou bien est-ce que mes attentes cantonnent Dieu ou Jésus à jouer les seconds rôles au risque de le rejeter? La réalité, c'est que mes attentes de Dieu, vos attentes de Dieu, ne produisent que deux choses. Soit elles me font aller vers Dieu, elles m'attirent, elles m'approchent de Dieu, soit elles vont finir par m'en éloigner. Et j'ai vu dans ma vie, et vous certainement aussi, j'ai vu dans mon ministère pastoral, beaucoup de personnes s'approcher de Dieu avec enthousiasme. C'était beau à voir. Manifester de l'intérêt. Beaucoup d'intérêt. Un intérêt qui a duré un certain temps, jusqu'à ce qu'elles comprennent véritablement quelles étaient les attentes de Dieu pour elles, pour leur vie, jusqu'à ce qu'elles comprennent véritablement les exigences de Dieu, jusqu'à ce que les attentes et les exigences de Dieu viennent télescoper leur choix de vie et qu'elles finissent par s'éloigner de Dieu, par rejeter tout ce qui est de la foi, par rejeter le Christ de qui elle s'était pourtant approchée avec enthousiasme. Mais c'était un Christ qui les appelait au changement, un changement qu'elle ne voulait pas faire. Chers amis, où en sommes-nous chacun ce matin avec cette question? Quelles sont mes attentes de Dieu, mes attentes de Jésus? Est-ce que je suis prêt à les ajuster? Et c'est valable même après des années et des années de vie chrétienne. Est-ce que je suis prêt à les ajuster pour véritablement accueillir le Christ avec tout ce qu'il a à dire sur ma vie? Ou bien est-ce que je finis par tout rejeter parce que ça ne cadre pas avec mes attentes et avec ma vie? Dans les versets qui précèdent notre passage, il est question au verset 6 de cause de chute ou d'occasion de chute dans d'autres traductions. C'est Jésus qui parle et qui dit « Heureux celui pour qui je ne serai pas une cause de chute ». En effet, selon ce que je fais de Jésus, nous venons de le voir, selon ce que je fais de mes attentes, Jésus est pour moi soit une cause de salut, soit une cause de chute. Et c'est la raison pour laquelle la seule question qui compte vraiment à la fin de ce message, dans tout ce que nous avons dit, ce n'est pas quelles sont mes attentes de Dieu, mais c'est plutôt qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Jésus attend de moi? La réponse, bien évidemment, c'est que Dieu ou Jésus attend de chacun de nous que nous le reconnaissions comme le seul vrai Dieu et que nous lui soumettions notre vie. Ce qui veut dire que la balle est dans notre camp, à chacun. Heureux, dit Jésus, heureux, déjà maintenant et pour l'éternité, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen.